chercheur à l'honneur. En 2025, la Fondation Michel Serre, Institut de France, a distingué le travail de 6 chercheuses et chercheurs pour leur thèse interdisciplinaire. Ils présentent leurs travaux sur la plateforme de podcast de l'Institut de France. Vous écoutez le 5e épisode de cette série.
Les batteries au plomb, comme celles que l'on trouve dans les voitures, sont parmi les produits les plus recyclés au monde. Une bonne nouvelle pour l'économie circulaire, oui, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que ce recyclage, il se fait dans des conditions à haut risque pour la santé. Le doctorant Paul Lost s'est plongé dans le fonctionnement de ces ateliers de recyclage que l'on retrouve pour beaucoup en Inde. Alors on a quelques questions à lui poser sur son travail qui a été salué par la Fondation Michel Serre de l'Institut de France. Nous avons la chance de le recevoir aujourd'hui à l'Institut de France. Paul Lost, bonjour.
Bonjour, merci pour l'accueil.
Alors, vous êtes intéressé au recyclage des batteries de plomb. Pour qu'on comprenne bien de quoi on parle, à quoi elles servent ces batteries dont on va parler, on les utilise dans la vie de tous les jours? J'ai parlé de voitures dans l'introduction, c'est ça?
Alors voilà, ce sont des batteries à ne pas confondre avec les batteries des voitures électriques.
Oui.
Qui, contrairement à les batteries qui nous intéressent aujourd'hui, sont des batteries qui contiennent d'autres éléments métalliques. Donc ici, il s'agit des batteries au plomb qui sont associées avec les voitures thermiques classiques et qui servent tout simplement à démarrer le moteur de votre véhicule. Donc ces batteries se retrouvent un petit peu partout à la surface de la planète. Et elles sont recyclées dans diverses conditions, donc ici en Europe avec des procédés plutôt industriels. Mais il existe des endroits sur Terre où elles sont recyclées avec peu de moyens technologiques et des connaissances théoriques très simples en Inde. Et c'était donc l'objet de notre terrain d'étude, d'aller expérimenter sur place comment ces procédés étaient mis en œuvre.
Et alors vous êtes parti à plusieurs reprises, enfin deux fois je crois, en Inde, dans l'état de l'Uttar Pradesh. Je crois que c'est l'état où on trouve le Taj Mahal.
Voilà, juste situé entre l'Himalaya et New Delhi. C'est un des états les plus peuplés de la Confédération indienne.
Et on trouve beaucoup d'ateliers de recyclage, particulièrement dans cette région-là, ou pas plus que dans d'autres régions indiennes?
Oui, alors en fait, cet état a la particularité d'être très peuplé et d'être situé un petit peu au carrefour de plusieurs mégapoles qui en fait fournissent en matière première. Des recycleurs donc, qui peuvent dégager une activité économique de ce recyclage et donc accéder à cette manne de matériaux qui est un petit peu le nerf de la guerre en fait, dans cette industrie du recyclage puisque l'enjeu pour ces recycleurs, c'est de s'approvisionner dans cette matière-là.
Comment ça se passe, la procédure pour recycler une batterie en quelques mots? Qu'est-ce qu'on fait? On enlève la batterie de la voiture? Qu'est-ce qu'on en fait ensuite?
Alors, pour faire très simple, il y a donc une filière logistique qui est vraiment séparée de l'activité purement physico-chimique de recyclage. Et donc l'enjeu de cette première filière est de collecter la batterie seule. Donc ça passe par des réseaux de dealers qui passent par des grossistes et qui ensuite s'occupent de revendre aux recycleurs. Et ensuite, donc on a l'étape plutôt de séparation physico-chimique pure, où là l'enjeu est de séparer les éléments chimiques qui constituent la batterie. Et pour ce faire, il y a plusieurs voies chimiques pour réaliser cette séparation. Et donc, on a des voies plutôt qu'on va qualifier de pyrométallurgiques qui font intervenir des températures très hautes.
D'accord.
Donc, celles qu'on va retrouver en Inde, car elles sont plus faciles d'accès. Et dans des usines plus modernes qu'on va retrouver dans les pays industrialisés, des voies qualifiées d'hydrométallurgiques, donc qui consistent à mettre en solution chimique ces éléments via des acides, via des
dissolutions. Voilà, vous avez regardé la première,
la première procédure qui est historiquement la plus développée, puisque les industriels sont passés par cette étape-là un peu partout sur le globe, et qui est facile d'accès, parce qu'il suffit en fait de faire fondre la matière et de séparer les éléments par différents biais, en ajoutant des éléments qui vont capturer certains éléments, ou en faisant passer dans des vapeurs en fait, les éléments dont on veut se séparer.
Et vous, ce que vous mettez en avant dans votre thèse, c'est que en fait, tout repose sur l'expérience des ouvriers. Il n'y a pas un protocole, ça repose sur un savoir-faire. Comment il se transmet, ce savoir-faire?
Voilà, alors ça, c'était vraiment la dimension plutôt sciences humaines et sociales de notre enquête, puisqu'on s'est très rapidement rendu compte qu'ils n'avaient aucune connaissance théorique.
Les personnes qui recyclaient ces batteries-là.
Voilà, c'est des personnes qui n'ont pas eu d'éducation, de formation spécifique associée à la théorie, mais qui ont réussi quand même, malgré tout, à développer ce savoir-faire en expérimentant par empirisme, puis par mimétisme, en fait, des personnes qui réussissaient effectivement à dégager du plomb, donc en l'occurrence, suffisamment pur pour en extraire une valeur économique. Et donc, ça s'est répandu comme ça, de proche en proche, et d'état en état, puisqu'on s'est rendu compte que non seulement l'Uttar Pradesh était concerné, mais également des états qui était assez proche aussi de cette région-là.
Et ça, cette manière de faire vous a vous particulièrement intéressé?
Donc nous, ce qu'on voulait mettre en évidence, c'était donc, comment ces personnes-là s'y prenaient concrètement, quels étaient leurs indicateurs en fait, dans les fours, dans les ateliers, pour piloter leurs procédés et obtenir du plomb liquide. Et avec nos connaissances théoriques et nos moyens instrumentés, mettre en regard les performances qu'ils pouvaient atteindre, donc en termes de quantité de plomb récupéré, la pureté effective de ce plomb, pour les comparer avec des procédés plus classiques qu'on pourrait retrouver ici en France ou même en Europe.
Mais alors la manipulation de ce plomb, j'imagine qu'elle n'est pas sans dégâts sur la santé humaine ou environnementale. Est-ce qu'il y a un règlement, une réglementation ou un encadrement de toutes ces activités ?
On s'est rendu compte en Inde notamment qu'il y a des grosses problématiques de contrôle en fait, des installations avec des licences qui sont accordées aux ateliers. Mais ensuite, les réglementations ne sont pas tout le temps contrôlées à la hauteur de ce qu'elles devraient être. Et ça implique des actions en fait, juridiques avec les riverains. Et c'est vrai que ça demande une réflexion quand même plus large qui doit englober quand même les ateliers et les chercheurs, mais aussi les riverains et les institutions juridiques et politiques indiennes.
Mais les riverains, en fait, ils se sentent concernés par cette problématique-là environnementale ou comment?
Alors, c'est surtout qu'en Inde, c'est un sujet un petit peu explosif puisque vous savez qu'il y a un contexte quand même politique avec les différentes castes, puis des différenciations religieuses qui rentrent en compte. Et donc, il y a certains riverains qui ont des familles qui travaillent dans les ateliers, donc qui bénéficient un petit peu de cette activité économique, en fait, qui se développe aux marges de leur champ, parce que la plupart des riverains sont quand même agriculteurs. Mais il y en a quand même beaucoup qui commencent à ressentir les effets du plomb, donc ils ont constitué une action en justice. Donc qui a abouti une première fois, si je ne dis pas de bêtises, c'était dans les années 2010, et qui a abouti à la fermeture de la moitié des ateliers à peu près. Mais les autres ont continué en fait à exploiter ces procédés-là, en générant quand même un impact environnemental qui était insuffisamment contrôlé. Et donc ces riverains, la dernière fois qu'on était sur le terrain, donc en 2021, essayaient toujours d'obtenir des éléments via les chercheurs que nous étions pour pousser encore des dossiers devant les tribunaux.
Ouais, donc c'est vraiment précieux ce que vous faites.
C'est attendu aussi de l'autre côté et ça oblige un petit peu les chercheurs aussi à se poser des questions sur quels vont être les impacts concrets autres que de la recherche académique sur les personnes qui sont concernées.
Alors pourquoi c'était important dans votre démarche de croiser plusieurs disciplines pour comprendre comment fonctionnaient ces sites de recyclage? Parce que vous, il y a à la fois des sciences de l'ingénieur, des sciences humaines et sociales.
Tout à fait. Alors, pour revenir un petit peu à la conception même de la thèse, c'était initialement inscrit dans la fiche de poste, puisque c'est une thèse qui est financée par la mission pour l'initiative transverse et interdisciplinaire du CNRS. Donc, dès l'origine, la thèse était conçue pour mêler ces disciplines qu'on n'imaginait pas forcément associées, comme les sciences humaines et sociales et les sciences de l'ingénieur. Et donc, j'étais épaulé pour ce faire par mes deux directeurs de thèse, donc un anthropologue, Yann-Philippe Tastevin, et un chercheur en génie des procédés, Laurent Casser, à Toulouse, donc pour mener de front cette expérience un petit peu inédite, dont on ne savait pas ce que ça pouvait donner.
Aujourd'hui, si on devait retenir un enseignement de votre thèse, une information que vous souhaiteriez que les auditeurs comprennent, retiennent de cette émission, qu'est-ce que ça serait ?
Même sans connaissances théoriques et sans instrumentation, c'est-à-dire utiliser des capteurs qui vont nous indiquer en temps réel la température du four, ce genre d'instrumentation qui mesure les conditions physiques, il est possible de réussir à séparer ces batteries au plomb pour réobtenir du plomb comme source d'économie circulaire. Donc ça, c'est un enseignement qu'on a réussi à mettre en évidence, même s'il est vrai qu'on peut atteindre des meilleurs niveaux de performance avec des procédés plus récents. C'est suffisant. En revanche, on s'est rendu compte, chemin faisant, que l'impact environnemental, en revanche, était non négligeable et même assez important pour à la fois les opérateurs des ateliers et à la fois pour les riverains autour de ces ateliers. Donc, au fur et à mesure de nos missions, on a eu envie d'élargir un petit peu notre palette interdisciplinaire en allant chercher des spécialistes de chimie de l'environnement, de géophysique, pour essayer de quantifier un petit peu cet impact environnemental.
Alors aujourd'hui, vous avez donc fini votre thèse. Qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Vous allez continuer à étudier cette question-là?
Alors, la thèse a été soutenue en 2023, effectivement. Et suite à ça, ça a donné lieu à une première publication et à de nouveaux projets de recherche, donc qui sont toujours portés par mes directeurs de thèse, qui ont continué, mais sur d'autres terrains, plutôt situés en Afrique, au Sénégal, où il y a déjà eu aussi beaucoup de scandales sanitaires documentés et médiatisés, notamment autour de Dakar. Et donc, cette question est plus orientée, disons, sur la quantification et la documentation de l'impact environnemental, plus que sur la gestion du procédé en tant que tel. Puisqu'on sait que la solution optimale serait évidemment de mettre en place plus de moyens pour confiner les enceintes, garder en fait les particules de plomb qui pourraient être susceptibles de s'évaporer dans l'atmosphère et ainsi réduire l'impact environnemental.
Peut-être dernière question pour finir. Comment vous avez pris connaissance de ce prix-là, le prix de la Fondation Michel Serres ?
Alors, initialement, j'avais postulé à la première édition l'an dernier via des appels à candidater que j'avais pu voir relayés à la fois par mon laboratoire de rattachement de sciences humaines et sociales, donc à Toulouse, qui s'appelle le LIST, et un deuxième établissement qui était un petit peu dans la sphère, disons, de la recherche toulousaine avec les mines d'Albi. Et ayant fait une thèse interdisciplinaire, ça m'a paru tout à fait naturel de candidater.
Et la deuxième fois était la bonne.
Exactement.
Et bien, un grand merci à vous, Paul Loss. Bravo aussi. Je rappelle le titre de votre thèse, « La technodiversité émergente de la mine urbaine, étude interdisciplinaire du recyclage des batteries de pompe en Inde ».
Les podcasts de l'Institut de France.